Donc après, il y a la première cible que Sylvie vous a présentée, les compétences narratives en réception. Compétences lexicales et syntaxiques. Donc dans tous les scénarios, dans tous les narramous, vous verrez qu'on met tout en œuvre pour que les élèves apprennent du vocabulaire, des mots, des expressions. Et on leur apprend aussi, Sylvie l'a dit, comment les mettre en mémoire pour pouvoir les retrouver plus facilement après. Donc quelles activités on propose ? Je vais revenir rapidement sur les constats sur l'enseignement du vocabulaire à l'école maternelle. Alors je dis rapidement puisqu'on a commencé à rentrer dans l'outil Naramus, mais c'est pour faire le lien. Je reviens sur le rapport. J'ai pas besoin d'être près du micro. Je reviens sur le rapport des inspecteurs généraux de 2011 qui constate la présence d'affichage de mots du lexique dans les classes et des verbes des consignes qui illustrent bien le souci de travailler et d'enseigner le lexique dans environ 30% des classes. Cependant, peu d'enseignement systématique. Les activités restent assez stéréotypées, avec de l'étiquetage du mot, de la désignation. Alors là, on est dans un constat qui n'est pas, on va dire, que négatif. Voilà ce qui existe. C'est un état des lieux. Le nombre de supports fabriqués dans les classes est significatif de cette logique. Présence d'imagiers, de dictionnaires, de répertoires. Souci collectif d'avoir des traces de ce travail et des mémoires de ce travail effectué en vocabulaire. Tout cela constitue bien une première étape, mais il y a un manque de moments spécifiques dévolus à des activités de catégorisation, à des mises en relation entre les mots, selon des relations de sens, synonymie, contraire, et surtout des situations de réemploi du vocabulaire. Pour qu'ils deviennent actifs et qu'ils rentrent dans l'usage actif, il faut le réutiliser. Ce sont les usages effectifs en situation qui vont aider à distinguer l'essence d'un même mot. D'accord. Voilà constat des inspecteurs généraux. Que nous dit la recherche ? Là, je vais m'appuyer sur des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Un texte de Snell qui propose 5 pratiques efficaces issues de la recherche, donc ce dont Sylvie vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pratiques efficaces, c'est qui ont montré leur efficacité sur les apprentissages des jeunes élèves. Comment la lecture d'albums peut-elle combler l'écart lexical ? Je ne l'ai pas dit. Là, on rentre bien sûr par l'album, comme dans un Naramus. C'est pour ça qu'on s'est appuyé sur ce principe-là. Définir explicitement les expressions et les mots nouveaux. On va y revenir après. Discuter du vocabulaire, bien sûr en adaptant le langage à la capacité de compréhension des jeunes élèves. Le faire réviser et vérifier son acquisition. Lire, relire et relire les albums. Raconter, re-raconter et re-raconter les albums. Ajout. Engager les élèves dans des activités du rappel de récit. Et intégrer les expressions et les mots nouveaux dans d'autres activités de la classe. Ces pratiques sont issues de la lecture d'albums. On a aussi des pratiques efficaces qui ont fait leur preuve pour introduire le sens des nouveaux mots, qui ne sont pas forcément basés sur des albums, mais vous voulez que je revienne sur la précédente ? Je vous la laisse. Après, je vais mettre en lien ces propositions de pratiques efficaces avec des activités et des tâches proposées dans Naramus. Donc, en fait, on va revenir dessus. D'autres recherches ont soulevé d'autres manières d'introduire le sens des nouveaux mots pour aider efficacement les jeunes élèves à les mettre en mémoire et à comprendre. Donner une explication compréhensible par les jeunes enfants. C'est ce que je vous disais, adapter le langage à celui des jeunes élèves. Donner l'explication associée à un support imagé, puis demander aux élèves de redire le mot en pointant la bonne image, produit des effets supérieurs à l'explication seule. Vous voyez la boucle ? Nous, on parle, on associe une image et on demande aux élèves de prononcer le mot. En faisant la boucle sémantico-phono, on augmente les effets pour les élèves. Les supports visuels sont particulièrement efficaces pour les élèves allophones et les élèves à besoins éducatifs particuliers. Offrir des supports visuels variés, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours utiliser le même imagier qu'on a dans la classe pour présenter les images aux élèves, par exemple. On va utiliser une photographie, on peut utiliser un pictogramme, on peut utiliser une illustration, vous voyez, aller chercher dans différents supports et registres. Je voulais y arriver à la fin, mais Sylvie me glisse. Les gifs, c'est-à-dire les images animées aussi. Mimer, référence à la dictée de mots en salle de motricité tout à l'heure. Associer le mot avec d'autres déjà connus. Faire les liens et donner les moyens aux élèves de faire ces liens. Au début, ils ne vont pas les faire automatiquement. C'est à nous, c'est comme dans l'histoire qu'on a lue. C'est comme ce matin, quand tu es arrivé, que tu étais en colère comme petit ours brun. Donner des exemples et en faire donner par les élèves. C'était celui-ci que je viens de vous donner. Faire dire le mot par les élèves et le faire associer à la bonne image ou le leur faire mimer. Ici, on rajoute le mime par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant. Demander aux élèves de prononcer le mot et de l'associer à l'image. Et là, utiliser des animations versus des images statiques. Donc les gifs, les images animées ou les vidéos. On va y revenir après. On a des préconisations, des constats de recherche, des techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Maintenant, comment les mettre en œuvre? Je vais vous présenter un schéma, Gouagou et Seb, qui permet de revenir sur l'enseignement du lexique. Et toute cette phase que vous voyez sur la partie gauche, enseigner, faire comprendre, expliquer, faire découvrir, étudier la morphologie, utiliser le contexte. Ce sont des activités qui sont régulièrement mises en place, maîtrisées par les enseignants dans leur classe. Et il faut qu'on continue en se servant de ce que je viens de vous montrer, mémoriser, aider les élèves à mémoriser pour les garder en mémoire et les rentrer dans leur vocabulaire actif, tous ces mots et ces expressions qui ont été travaillées. Donc, après faire comprendre, faire mémoriser, on va voir ensemble comment c'est proposé dans Naramous, faire réutiliser, revenir sur ces mots et les utiliser dans d'autres contextes que dans le contexte de découverte de l'histoire. Et enfin, évaluer pour vérifier la compréhension, la mémorisation et le transfert. C'est sûr, c'est le volet plutôt de droite qu'on va travailler ensemble. Enseigner, faire comprendre, expliquer, mais quand? Beck et McNeon et Kukan, je ne sais jamais comment on dit, Kukan, proposent de travailler des mots avant de lire le texte. Et vous verrez que c'est systématiquement fait dans les propositions des scénarios. Afin de rendre les mots qui ne sont pas familiers des élèves, qui ne sont pas dans leur répertoire disponible, utilisés dans la vie quotidienne, disponibles chez les élèves et réduire ainsi les problèmes de compréhension. Là, on va leur annoncer qu'en travaillant ces mots-là, ils vont pouvoir mieux comprendre le début et le texte que l'on va découvrir ensemble. La recherche montre aussi qu'on peut proposer de travailler les mots pendant l'étude du texte en contexte, en reformulant, traduisant, mimant. On n'est pas ici dans un objectif d'enseigner le vocabulaire, mais d'aider les élèves à mieux comprendre ce moment-là, cette phrase-là du texte. Et il y a certains mots ou certaines expressions qui, hors du contexte, sont difficilement enseignables. Je pense à « consciencieusement », qui était dans un de nos textes. C'était assez difficile de l'expliquer peut-être avant, bien que on trouve toujours des solutions, mais voilà. Ensuite, proposer un enseignement après la découverte du texte. Enseigner les mots présents dans le texte qui sont intéressants, mais qui n'empêchent pas de comprendre le sens global du texte, s'ils sont inconnus des élèves, mais revenir dessus après, parce qu'on se dit que ceux-là vont pouvoir servir dans le développement du vocabulaire des élèves et qu'on les a choisis pour augmenter leur bagage lexical. Mais on se dit, bah, dans le texte, ils ne sont pas prioritaires pour nous. On n'est pas sur les mêmes objectifs, en fait. On a vu quand. On va voir combien. On sait qu'à partir de l'âge de 2 ans, et ça, c'est assez fondamental comme données, les enfants apprennent spontanément environ 10 mots nouveaux par jour pour atteindre un vocabulaire de plus de 10 000 mots à 6 ans. Spontanément, c'est-à-dire sans enseignement explicite. Donc, explosion lexicale. Mais il y a aussi les après, comment on fait pour aider les élèves à mémoriser ces mots et à les comprendre. Voilà ce qui se passe, on va dire, naturellement, explosion lexicale, mais comment on continue après pour qu'ils développent tous leur vocabulaire. Tous ceux qui n'ont pas autant d'histoire à l'école, tous ceux qui n'ont pas eu cette explosion lexicale aussi grande, parce qu'on leur parlait peut-être un peu moins, comment on fait ? La recherche là-dessus nous donne des données importantes et nous montre qu'il faut particulièrement soigner la phase d'encodage, c'est-à-dire la manière dont on explique les mots aux élèves, comment on les aide à comprendre ces mots. Dans les outils, dans Naramus, on a conçu des activités qui permettent de multiplier les liens sémantiques entre le mot cible, le mot que l'on souhaite apprendre, et les différentes catégories avec lesquelles il pourrait être relié. Multiplier les liens sémantiques entre le mot cible et différentes catégories. Comment ça se passe concrètement ? Plusieurs recherches montrent, petit retour en arrière, ont montré que le rappel et le traitement des connaissances stockées en mémoire sont étroitement liés à la nature et à la qualité de leur encodage. Pour aller retrouver un mot qu'on découvre, qu'on entend, qu'on découvre dans un texte, si on l'a déjà entendu, ça sera beaucoup plus facile pour un élève de le retrouver et de se dire « Ah oui, je le connais », parce que la première fois, lorsqu'il l'aura été découvert, cette phase d'encodage avec multiplication des liens sémantiques aura été particulièrement soignée. C'est-à-dire, un élève vous demande, je me rappelle d'un élève qui en CP m'avait dit « Qu'est-ce que c'est une clémentine ?» J'avais utilisé ce mot-là. Bon, c'était il y a longtemps. Je ne vous redonne pas la manière que j'avais utilisée pour lui expliquer. Ça avait dû être assez rapide. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une clémentine ? Une clémentine, c'est un fruit. Ça ressemble un petit peu à une orange, mais c'est plus petit. À l'intérieur, il y a du jus. Il y a une peau qu'on ne peut pas manger. Elle est un petit peu rugueuse. On l'enlève. Quand on l'ouvre, il y a des quartiers, comme dans le pamplemousse, comme dans l'orange. On le montre, on le coupe. Voilà. On multiplie les différentes entrées pour que l'élève puisse aller après chercher dans différents registres. On ne peut en effet avoir accès à une information en mémoire qu'à partir des indices ou des liens sémantiques utilisés lors de son encodage. C'est pourquoi il est important de soigner particulièrement cette phase en proposant aux tout jeunes élèves de multiples liens sémantiques qui relient un même mot à plusieurs catégories différentes. C'est clair ? Si on prend un exemple sur un animal, un poussin, ben le poussin, c'est le petit de la poule et du coq. Si on s'arrête là, on ne va pas faciliter justement ces liens et les mettre en avant pour les élèves. Et on continue. Quand il sera grand, le poussin, il sera comme une poule ou un coq. C'est jaune, un poussin, comme le fruit, la banane. Mais ce n'est pas comme... voilà, le poussin, il a des plumes, mais pas comme. Le poussin, il a un bec. Voilà ses pattes, comment elles sont faites. Ça ressemble à... Et là, je reviens sur ce que Sylvie disait tout à l'heure. Quand on choisit les mots, on va cibler... les mots pour les élèves allophones, pour les élèves qui n'ont pas l'utilisation du français à la maison, mais les autres qui l'ont. Eh bien, ils ne vont pas retenir le mot poussin parce que celui-là, ils vont l'avoir. Mais justement, ils vont retenir, ah, ben il a des pattes un petit peu palmées, comme le canard, mais pas tout à fait. Il a des plumes et ils vont s'accrocher et augmenter leur connaissance soit du monde, soit leur connaissance lexicale reliée à ce mot-là. Enseigner le vocabulaire en contexte. Les situations d'apprentissage sont plus efficaces quand elles sont inscrites dans des buts, dans des activités significatives et quand elles sont dirigées vers un but explicite. Les élèves, là, par exemple, vont savoir qu'ils vont raconter cette histoire en classe pour finalement la raconter à la maison. Contre le mot du jour, le mot donné, un mot par jour. Et là, on l'a déjà dit sur le contexte initial. On rentre dans Naramus, les compétences lexicales et syntaxiques. Exemple utilisé dans Gruffalo, grande section CP. On va dire à nos élèves qu'on va découvrir donc des mots qui vont nous servir, dont on va avoir besoin pour le début de notre histoire. Donc écoutez-les bien parce que ça vous aidera à comprendre la suite. Dans notre histoire, il va y avoir un renard. Un renard, c'est un animal. C'est un animal qui a des poils, comme le loup. Il ressemble un petit peu au loup, mais il est beaucoup plus petit. Il a une longue queue et il est roux, un petit peu orange, comme l'écureuil. Il mange, voilà ce qu'il mange. On continue. Connaissance du monde. Les bébés du renard, ce sont les renardeaux. Le renard, il vit dans un terrier. Un terrier, c'est un trou qu'on trouve dans la terre. Le renard, il le creuse. Et on valide. Est-ce que ça fonctionne? Excusez-nous, nous ne maîtrisons pas ce matériel. Je ne maîtrise pas ce matériel. Bon, on voit un renard qui rentre dans son terrier, puis qui ressort du terrier, d'où l'intérêt de laisser bien jusqu'au bout la vidéo. Mais il va falloir régler ce problème parce qu'après, j'en ai vraiment besoin. Donc, je suis en train de... Et oui, mais je sais, mais il se met automatiquement en mode présentateur. Je le masque, mais... Ça y est. Ah, bon. Allez, vous avez compris, on avance. Oh, oh.
Mais tu vois ça.
Non.
Dans la classe, c'est silence. Mais alors, silence. C'est impressionnant. Et on revient sur ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il a fait, le renard? Eh bien, il est rentré dans son terrier, et puis il est ressorti de son terrier. C'est la maison où il habite. Autre exemple. Le gros chagrin d'Edgar, qui a été travaillé en moyenne section l'année dernière. On est dans comment on présente les personnages de l'histoire. Voilà, dans notre histoire, il va y avoir un âne. Cet âne, il s'appelle Edgar. Et dans l'histoire, voilà à quoi il ressemble, notre âne. Et systématiquement, on montre les personnages, comme l'éléphant tout à l'heure, Bobo, présenté comme dans l'album. Et dans la réalité, voilà comment il est. Parce que là, il est de la même couleur, on peut sensiblement, pour les élèves qui ont cette connaissance-là, le rapprocher. Mais quand on a un écureuil qui est violet, déjà, c'est beaucoup plus difficile pour les élèves de se faire l'image. Et une fois, dans un des scénarios, on n'avait pas fait ce rapprochement. Et tout de suite, les élèves ont dit, mais là, mes maîtresses, tu nous as pas montré comment c'était fait dans la vraie vie, en fait, cet animal. Et un âne, dans la nature, dans la vraie vie, voilà à quoi il ressemble. Il a des poils, il est gris, il a quatre pattes. Et l'âne, il est comme ça, il a des longues oreilles et il ressemble un petit peu à un cheval. Parfois, on peut le confondre. Mais vous voyez, il est plus petit que le cheval, ses oreilles n'ont pas la même taille. L'âne, c'est un animal qui brille, vous en avez peut-être déjà entendu, je vais vous en faire écouter là. Voilà comment. On le reconnaît parce que ça s'entend beaucoup, si vous en avez déjà entendu un. Hein. Et le cheval, lui, c'est... il hennit. On est à la fois sur... on favorise la compréhension du mot avec la mise en place de tous ces liens et on fait des connaissances aussi du monde. Un âne, ça vit dans un grand pré. Dans notre histoire, on va le trouver parfois dans un grand pré. Un grand pré, c'est un champ. Et parfois, il va être dans l'étable. Et l'étable et le pré, c'est dans une ferme. Oui, il y a une époque qui a... Dans notre histoire, l'âne, il adore les chardons. Alors là, tout de suite, chardon... moins connues. Les chardons, en fait, ce sont des petites plantes. Dans l'histoire, elles sont dessinées comme ça. L'illustrateur, il a choisi ce dessin où on voit qu'il y a des petits pics violets avec des feuilles piquantes. Et dans la nature, quand on en croise, quand on en trouve en fleurs, voilà comment ils sont, les chardons. Et l'âne, il mange les chardons. Il est très gourmand, il aime beaucoup, il mange ses chardons. Et dans notre histoire, l'âne, il va aussi manger des carottes fraîchement cueillis. Alors, arraché entre parenthèses, parce qu'il y a des spécialistes chez nous qui nous ont dit que les carottes ne sont pas cueillies. Mais dans le texte, les carottes sont fraîchement cueillies. Arraché. Voilà des plantations de carottes. Là, on voit juste une partie. Le reste est dans la terre. Le légume est dans la terre. Et voilà quand on les sort. Et voilà généralement, comment on trouve les carottes et l'image que les enfants en ont peut-être. Compétences lexicales et syntaxiques, toujours, enseignez tout le vocabulaire, les expressions, les verbes. Rappelez-vous l'étude sur le lexique, le développement lexical chez les enfants. Et en fonction du milieu d'origine sociale, les verbes, beaucoup moins de verbes utilisés chez les enfants, dans cette étude chez les enfants de milieu populaire, les adjectifs et le vocabulaire des émotions. Si on veut aider les élèves à comprendre tout ce qui est autour des états mentaux, tout ce qui est autour de l'implicite, on doit travailler ces adjectifs, ces émotions, ces verbes. Donc, tout enseigner. Comment ? En utilisant des images, être étonné, surpris, stupéfait dans Le Gros Chagrin d'Edgar, en utilisant des images animées, et là c'est vraiment parlant pour les élèves, quand on leur demande ensuite, on leur dit faites-vous comment vous pouvez faire, et qu'ils miment, surpris, étonnés, on voit que ce sont des images qui sont marquantes pour eux, et très parlantes, sursauter. C'est un concombre. Hein. Là, la souris grignote dans Moussa, la sieste de Moussa.
Alors là, à la fin, elle va partir. Donc la première fois, elle émet la montre en entier. Puis au bout d'un moment, comme c'est tout le temps que ça réapparaît, puisqu'on... on s'entraîne, ils coupent au milieu. Et c'est un hurlement comme vous. Ils adorent quand la souris, elle s'en va. Donc il faut regarder jusqu'au bout.
Il fait qu'elle parte.
Exemple issu du même album, Le Lion Rugit. systématiquement, on revient sur les mots. À chaque séance, je vais vous l'expliquer juste après. Mais on revient sur les mots et vous disposez dans le CD, qui est avec le scénario, vous disposez des images aussi. Alors, là, peut-être que la collègue les a déjà sorties. Donc, vous pouvez imprimer les images. Ici, on est dans les deniers de compère lapin, grande section. Parce que les enseignants, et c'est suggéré dans l'outil, ont aussi la version papier. Se faire un coin lexique dans la classe. Laisser des traces pour revenir dessus, mémoriser. Vous verrez que les élèves adorent ça. Ensuite, il y a certains collègues aussi, ils veulent revoir les mots et ils sortent leurs cartes. S'ils ont 5 minutes, ils disent, tiens, on va faire un petit temps de retour sur les mots.
Juste une chose, au bout de quelques scénarios, donc là, les nôtres, ils sont au quatrième, c'est le jeu, le best-of en ce moment, c'est vitesse de dénomination. Les psychologues ont rêvé, les élèves l'ont inventé. Donc, ils vont chercher la boîte et il y en a un qui est aux commandes, qui monte la carte et le premier qui dit le mot la gagne. Voilà. Et ils passent leur temps à jouer à ça, y compris des élèves de CP, ils ont repris toutes leurs boîtes là. Et leur jeu de récré, c'est jouer vitesse de dénomination. Et vous savez qu'il y a beaucoup de liens. Vitesse de dénomination, c'est lié avec plein de compétences. Ben voilà, ils se sont inventés cette compétence. Donc ça ennuie les enseignants, les élèves adorent. Pourquoi ils adorent? Parce que sentiment de compétence, parce que fierté, parce que ludique aussi. Hein.
Et alors, un exemple aussi dans une classe, une collègue qui rapporte qu'un élève, il met le sablier qui est utilisé pour un jeu de société de la classe, et tout seul, il se dit les mots et il compte combien il a de cartes dans le sablier. Et la prochaine fois, il verra s'il peut en dire plus. Moi, c'est tout seul, mais ouais, on s'entraîne à jouer tout seul. C'est bon. Enseigner, on a vu comment favoriser vraiment l'enseignement et les différents liens sémantiques pour les élèves. Autre volet, mémoriser. Ce que Sylvie tout à l'heure vous disait, faire prendre conscience aux élèves qu'il est important de mémoriser et que cela demande un effort. Oui, ces mots qu'on voit, on va essayer de s'en souvenir. Et pour s'en souvenir, je vais vous aider. Comment ? On ne va pas seulement compter sur « on va répéter plusieurs fois » et vous arriverez à les stocker. Pour les mettre en mémoire, on va attirer l'attention des élèves sur la nécessité de et sur le développement de stratégies. Ça, les boîtes. Alors, les boîtes, vous venez d'en voir un tout petit extrait avec la boîte effective dans laquelle on va mettre les cartes, mais aussi la boîte que vous avez dans votre tête. Alors, cette boîte, elle a des tiroirs. C'est des enseignants, c'est une collègue enseignante dans une école qui utilisait ça. La boîte Brigitte Dussap, les tiroirs Nathalie Bagillet, juste pour leur rendre, on pense à. Les boîtes, c'est dans votre tête, dans votre mémoire, vous allez ouvrir une boîte. Et cette boîte, on va ranger dans ce tiroir, ça sera dans la boîte, il y a plusieurs tiroirs, et là, ça va être le tiroir de la sieste de Moussa. Dans cette boîte-là, on va ranger plein de mots, plein d'expressions qui vont vous servir à comprendre cette histoire, mais qui vous serviront aussi pour comprendre d'autres histoires. Donc, effectivement, on aide les élèves à prendre conscience de cette nécessité de mémoriser. Comment ça se passe dans l'outil, vous avez le début d'une séance, apprendre à mettre le vocabulaire en mémoire dans Naramus. On explique aux élèves dans le début de cette histoire, il y a des mots qui vont être difficiles. On va en avoir besoin pour pouvoir comprendre l'histoire et pour pouvoir la raconter. Et aujourd'hui, vous allez tous ouvrir une petite boîte dans votre mémoire. On dira que c'est la boîte qui s'appelle les deniers de compère lapin, ce que je viens de vous expliquer. Dans les formats numériques, vous avez la boîte aussi qui est présente. Et ensuite, on affiche l'image du mot, de l'expression qui va être travaillée en premier. Rusé, malin. Ce chat, il est rusé, malin. Et on fait nommer par les élèves, rusé, et on explique ce que cela signifie. Comment l'image va nous permettre de nous en souvenir. Faire un sourire en coin. Dans notre histoire, le personnage, souvent, il va faire un sourire en coin. Les boîtes pour aider à mémoriser. Alors, je vais le faire. Ce qui est suggéré aussi souvent dans Naramus et que des collègues faisaient dans leur classe, c'était soit avec l'image papier, je vous la montre, je la cache, ou avec le vidéoprojecteur, je vous la montre, je fais l'écran noir. Attention, je vais l'enlever. Donc, c'est bon, vous l'avez dans votre tête, vous le voyez. Je vais l'enlever. À vous. Rusez, avoir un sourire, faire un sourire en coin. Vous l'avez ? Vous êtes fait l'image, c'est bon ? Allez, on regarde. Ceux qui l'ont pas, ils se la font avec l'image. Une autre collègue, utilisait systématiquement le fait de... Allez, les élèves, on met la tête en bas, on secoue. Hop. Allez, on roule son tiroir. Il y a toujours le mot ? C'est bon. Voilà. On met en mémoire, avec eux. Apprendre à mémoriser avec les boîtes et aussi avec les écoutes de lecture, de relecture, de raconter et de re-raconter. Rappelez-vous les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité tout à l'heure, lire, relire et relire, raconter et re-raconter. Un exemple qui est pris là dans un scénario de moyenne section, la sorcière dans les airs. Je fais cet extrait. L'enseignant lit l'extrait. Donc là, on est sur comment en lisant ou en racontant ou en relisant, on va réutiliser, réactiver les mots et les expressions qu'on a enseignés. On va les utiliser dans le contexte de l'histoire. En re-racontant, les enfants vont entendre de nouveau ou en relisant vont entendre de nouveau. L'enseignant lit l'extrait. La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière souriait, tandis que dans les airs s'élevait leur balai. Ensuite, l'enseignant raconte l'extrait. Alors, c'est l'histoire d'une sorcière. Cette sorcière, sur sa tête, elle met un chapeau noir pointu bien haut. Et elle a une tresse dans ses cheveux. Une tresse, c'est quand on fait les nattes ce matin, elle en avait une. Et dans sa tresse... Elle a un... Je vais vite parce que je vois l'heure qui tourne. Vous comprenez l'idée ? On réutilise les mots et on raconte l'histoire en même temps. Ensuite, ritualisation. Les élèves prévoient l'image. Quand ils vont prévoir l'image, eh bien sur l'image, il va y avoir une sorcière avec un chapeau noir et dans ses cheveux, elle a une tresse et elle a un nœud. Les élèves vont décrire l'illustration. On l'affiche et on la décrit en réutilisant des mots qui ont été enseignés. Autre manière de réutiliser les mots. Et enfin, pas de manière systématique, mais dans certains scénarios, on montre le dessin animé, une autre manière d'améliorer à la fois la compréhension pour les élèves les plus fragiles et d'entendre une nouvelle fois l'épisode en écoutant de nouveau les mots et les expressions qui ont été enseignés. Ah, je vous le mets. Alors, je mets le début. Bon, vous allez.
Une sorcière avait un chat plein d'adresse. Un chapeau noir pointu, volumineux. Et de longs cheveux roux coiffés en tresse qu'elle décorait au bout d'un joli nœud.
Le dessin animé, c'est comme dans notre narration, ce n'est pas exactement les mots du texte, mais vous voyez cette alternance entre les mots du texte, la fidélité au texte, on comprend l'écrit, et ces retraductions qui permettent de raconter un petit peu autrement et d'aller trouver d'autres manières de dire pour aider les élèves à mieux comprendre. Donc on était sur mémorisation du lexique, autre volet, faire réutiliser. Si on veut que les compétences lexicales qu'on a travaillées, les mots et les expressions que nous avons apprises avec les élèves restent de manière durable et stable, il faut les réutiliser dans d'autres contextes. Concrètement, multiplier les occasions de réviser, de réutiliser et d'intégrer ces mots dans d'autres activités scolaires. Dans Naramus, systématiquement, en début de séance, on revient sur les mots qui ont été découverts et mémorisés lors des modules précédents. Systématiquement. Ritualiser, stabiliser, développer le sentiment de compétence. Après, il y a des propositions de mise en scène, dire le mot en même temps, le chuchoter, qui sont proposées. Les enseignants, vous êtes assez forts pour trouver des manières de faire. Donc là, top. Donc là, moyenne section. Petite top, ouvre-moi ta porte. Neige. La grenouille. Mouillée. Oui, mouillée, c'est une image animée que nous n'animons pas lors de la révision, mais en découverte, ça a été animé. Et... voilà. Être épuisé. Nuit. La nuit, pardon. Le canapé. Et c'est terminé. Donc là, on revient systématiquement sur les mots vus. Autre proposition dont Sylvie vous a parlé ce matin, dictée de mots. Oui, avec des petites sections, des moyennes sections ou des grandes sections, on fait des dictées. En salle de jeu, faire mimer les mots, les expressions. Donc là, on est dans petite section, un poussin de mauvais poil. Faire semblant d'être grognon, ronchon, de mauvaise humeur, de mauvais poil. Ils savent ce que c'est, ils ont compris, puis ils s'amusent fortement lors de ces mimes. Alors là, vous avez une idée? Qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Ils sont figés, oui. Stop, barrer la route. Ils barrent la route, ils empêchent de passer. Suivre quelqu'un, se rouler. Et vous voyez là, forcément, on est beaucoup dans les verbes. Autre manière de réutiliser le langage, le dessin dirigé. Donc ici, en moyenne section, on réutilise les mots du corps, les mots des vêtements pour apprendre à dessiner un des personnages de l'histoire. Ici, Gaston. Et on utilise le vocabulaire, la tête, les yeux, les oreilles, la moustache. Voilà ce que ça peut donner chez l'ensemble des élèves. Pardon ? Ah. L'âne, qu'on a vu tout à l'heure, avec... Alors, j'entends, ils se ressemblent. C'est une activité qui est dirigée, c'est du dessin dirigé. Donc, ça a été décortiqué, fait en exemple avec l'enseignant. Et c'est vrai que souvent... Mais quand on les regarde après, ils ont chacun leur identité avec des oreilles droites, voilà, sur les côtés. Et la dinde, réutiliser les mots pour décrire l'animal... les poils, elle fait la fière, cette dinde, donc on voit bien les plumes, pardon, quand elle a ses plumes dressées derrière comme ça, on réutilise les mots, les ailes qu'on a vues ensemble. Et les élèves s'amusent seuls à l'accueil, les enseignants nous envoient des photos en disant, ben voilà, voilà ce qui se passe dans la classe, une fois qu'on a découvert ensemble et qu'on a appris à dessiner ensemble. De multiples propositions autour de jeux de cartes pour réutiliser et intégrer ces expressions et ces mots travaillés. Jeux de devinettes, qui suis-je? Je suis un animal, je barille, j'ai des défenses, des jeux de tri de cartes. Je ne détaille pas à chaque fois parce que le temps tourne et c'est des choses que vous pouvez connaître, mais tri de cartes avec visée de catégorisation, rappelez-vous. Appariement multiple, dénomination rapide, mime loto. On en voit quelques-uns après avec quelques exemples. Donc, jeu de loto, encore un autre jeu de loto, qui a le cochon, qui a le balai, une enseignante...
Ça, c'est important, hein. C'est pas de l'appariement perceptif, le loto habituellement, c'est je regarde, j'ai la même, je pose, qui...
c'est en fait la maîtresse ou un élève qui dit qui a et celui qui a. Et donc voilà, il est obligé d'employer le lexique, celui qui a le mot le dit. Donc c'est pas de l'appariement perceptif, c'est vraiment de l'appariement avec le mot. Évidemment, c'est les mots qu'on a utilisés pour l'enseignement, c'est pas des nouveaux mots. Hein.
Et on continue sur... Là. J'ai, ah oui, pardon, un jeu, j'ai qui a, inventé par une enseignante du groupe 1 dans la recherche. Alors, les élèves jouent avec les cartes. J'ai griffe, qui a, bois profond. J'ai griffe, la première image, c'est j'ai griffe. Donc là, ils ont l'image et c'est à eux de la nommer, d'aller rechercher le mot qui correspond à cette image ou l'expression. Qui a, bois, les autres élèves. Dans les autres élèves, tout le monde a des cartes. Qui a bois ? Qui a la forêt ? C'est, dans le texte, c'est bois. Bois profond. Voilà, chaîne orale. Qui a la forêt ? L'élève qui a la forêt dit, c'est moi, j'ai la forêt. Et il pose la question, qui a la souris ? Parce qu'il a la souris, lui, en petit en dessous. Et là, les élèves, au début, avec l'enseignante, et après tout seul, et ils s'amusent à jouer à ça toute la journée. Catégorisation. Rappelez-vous, enrichir les activités et les temps dévolus à des activités de catégorisation. Un exemple, chez les petites sections, le machin, vous l'avez en tête. Donc, ces animaux qui, successivement, donnent un attribut à ce tissu et s'insultent... À tour de rôle. Donc, on peut les organiser comme ça. Pourquoi ? Alors, il y a la taille des animaux en plus. Ce sont des animaux, avec là en plus. Les injures, tout à fait. Les vêtements. Les parties du corps. Mais on peut aussi les organiser comme cela. C'est l'éléphant qui trouve le machin, qui décide d'en faire un bonnet pour le mettre sur sa tête et il se fait traiter de grosse patate. Et on continue avec l'alligator qui décide d'en faire une cape pour mettre sur son dos et qui se fait appeler gros cornichon. La brebis, Zaza le canard, et la fourmi, toute seule. Le machin. Autre jeu, appariement multiple. Toutes les images sont visibles. Voyez, vous les voyez, vous ? Bon, on les cache. Allez, on en retourne deux. Tu en retournes deux. Est-ce qu'elles peuvent aller ensemble ? Oui, la sorcière. Pourquoi ? On fait bien justifier. Parce que la sorcière peut avoir un chapeau. Tu as gagné un point. On laisse les cartes où elles sont. On les retourne dans le jeu. Allez, deux autres. Bon, c'est un peu dur si on ne connaît pas l'histoire de la sorcière dans les airs. Mais c'est le chien qui trouve le chapeau. Donc, vous voyez le raisonnement ? Oui, ça peut aller dans cette catégorie-là, avec cette justification-là. Mais si on le relie à qui a trouvé le chapeau, c'est le chien, oui.
C'est pas de la catégorisation, c'est de l'appareillement.
Oui, c'est le chien dans l'histoire qui le trouve. J'ai entendu, c'est le chien. Donc, on peut apparier les deux cartes ensemble. On continue. Le chien, la baignoire, dans l'histoire, ils n'ont rien à voir, donc on ne peut pas les apparier, les mettre ensemble. Autre manière de réutiliser, c'est d'avoir un affichage dans la classe. Ça, c'est un affichage, par exemple, d'une collègue enseignante de moyenne section qui garde trace en organisant un endroit où elle met tous les animaux qui ont été travaillés dans les scénarios. Jouer, nommer, seul, sans demande de l'adulte, au moment de l'accueil. Pourquoi ? On développe le sentiment de compétence, on est content, et les élèves, ils arrivent et ils nomment et ils montent les cartes et ils se disent « qu'est-ce que c'est ça ?» et « toi, c'est ça ?» et ils bruitent en petites sections. On voit bien la copine derrière qui est en train de jouer. Et des élèves de toutes petites sections qui aussi profitent de l'enseignement sans y être invités. Tout à l'heure, il y a une collègue qui intervenait là-dessus dans sa classe où elle trouvait ce fonctionnement-là aussi. Et qui joue à nommer les images tout seul au moment de l'accueil. Faire réutiliser, c'est aussi engager les élèves dans des activités de rappel. Pourquoi ? Plusieurs études montrent l'impact des activités de rappel sur l'acquisition du vocabulaire. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Cet impact est d'autant plus fort que les enseignants incitent les élèves à employer le vocabulaire enseigné. Tu vas raconter l'épisode et tu vas essayer d'utiliser des mots ou des expressions qu'on a découvertes aujourd'hui ensemble. Le rappel soutient l'apprentissage du vocabulaire parce que, comme la relecture, il augmente les occasions d'entendre les mots nouveaux et aussi de les réutiliser. Pour celui qui raconte et pour les autres qui écoutent. Les activités de mise en scène offrent les mêmes avantages. Théâtre, tout à l'heure tu vas en parler, donc je ne vais pas m'étendre dessus, en utilisant le vocabulaire qui est particulièrement lié aux états mentaux des personnages. Raconter seul, avec successivement l'image qui arrive pour valider ce que l'élève vient de dire, et on avance progressivement au fur et à mesure du récit de l'élève, en affichant l'illustration pour montrer comment il avance dans le récit. Et la validation peut se faire, quand c'est le cas, par une vidéo. Je ne vais pas vous la mettre. Pardon ?
La classe, puis le...
Oui, oh pardon, j'ai oublié le logo là. C'est arrivé en même temps, j'étais trop rapidement. Une fois que l'élève a terminé son rappel, rappelez-vous, la classe a le droit à ce moment-là de parler et de rajouter, de revenir sur ce qui a été dit par l'élève qui a lu, qui a raconté. Et on peut valider avec la vidéo. Ah oui.
Une nuit, Edgar est réveillé en sursaut. Dans la cour de la ferme, Gaston crie de tous côtés. La dinde ! Où est donc passée cette idiote de dinde ?
Ah si, c'est bon.
Cela fait des semaines que j'engraisse cette dinde pour la manger au réveillon, et paf, plus de dinde. À ces mots, Edgar comprend tout. Et moi qui me rendais malade à cause de cette pauvre dinde. Le soir du réveillon passe, sans dinde pour Gaston. Edgar retrouve ses bonnes habitudes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de dinde que tu n'auras pas de bon chartre. Et Edgar travaille à se refaire un bon petit bidon d'âne mangeur de chardon.
Voilà. Utilisez également le vocabulaire, et là je vais aller aussi un petit peu rapidement parce que ça sera vu après, avec le théâtre, en racontant avec les maquettes, avec les marottes, avec les personnages qui ont été fabriqués. Dernier volet du schéma sur l'enseignement, évaluer. Alors là on est dans une question, on va dire, de chercheur, vérifier, comprendre, pour comprendre, voir ce que les élèves ont compris, mémorisé, retenu. Et on en parlera après, quand on vous présentera la recherche et les résultats un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vais laisser de nouveau la parole à Sylvie, qui, après la cible vocabulaire lexique, va repartir sur l'implicite.